Poussière d'étoiles, poussière de terre, poussière de ville et de béton. Le premier soleil central explose et recompose des matériaux modernes avec lesquels on va réinventer la ville. On réinvente la terre crue pour créer un nouveau béton avec moins de ciment. La terre crue n'est pas cuite, elle est utilisée mortier, brut. Au Soudan, la mosquée de Tombouctou, 14e siècle, et de Djéné, 20e siècle, en sont faites. On l'appelle aussi Adobe, où l'on redécouvre le nom du célèbre éditeur de logiciels, qui a pourtant une toute autre origine. Il y a une pénurie mondiale de ciment, de sable, de tout. Des chercheurs se sont même demandé si le sable du Sahara ne pourrait pas servir de mine. Mais il est trop fin. Et on se souvient de Coluche disant que les technocrates, si on leur donnait le Sahara dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Cependant, d'autres déserts sont convoités pour leur sable mieux adapté. Le sable, sur Terre, est une ressource rare. Il serait préférable d'utiliser sa surface ensoleillée pour fabriquer de l'électricité verte. C'est prévu. Ce béton, en terre crue, les assureurs acceptent de le prendre en charge sur les deux premiers niveaux uniquement, tandis que les potentiels acheteurs se demandent si le béton normal, c'est quand même pas plus solide. On a l'écologie qu'on peut. Le terrain de l'école explosée, suivons les vues satellites entre 2016 et 2020, sera recomposé. On suivra les vues de 2021 à 2027. La noue utilisée pour irriguer des espaces verts, une certaine pente, un relief, des arbres conservés, des rues connectées aux autres moyens de locomotion, des mouvements matin et soir attendus. Une ville banale en apparence, mais de notre époque. Est-ce que ce sera possible? Et dans les domiciles, les épluchures de légumes, de fruits, le marc de café, les sachets de thé, on retire la graffe et le carton, les coquilles d'œufs, le compost, dans le jardin, et dans la cuisine, des herbes aromatiques, sur le balcon ou à la fenêtre, des tomates, des courgettes. Tout ça, c'est amusant pour les enfants de la ville, ça ressemble à l'autosuffisance, mais on a acheté le bac à plantes et celui à compost, on ne les a pas fabriqués soi-même. Dans l'écoquartier, il est prévu une ferme urbaine, pour que les produits frais ne viennent pas en camion ou en bateau. Le marché débarque au marché en demandant au bilan comptable. Est-ce que ce sera rentable? Une si petite surface à cultiver, est-ce gadget? La question du vital, de l'autosuffisance, du local. Tout cela a soudain pris une autre dimension, une importance neuve. Tandis que ce livre commençait à s'écrire et que le chantier se mettait en pause, est arrivée la pandémie mondiale du virus SARS-CoV-2. La diffusion rapide de cette peste contemporaine, facilitée par les infrastructures polluantes de fabrication et de transport, les infrastructures de santé en perdition, l'exploitation animale au départ là-bas aussi, l'absence de préparation politique à l'arrivée ici, la volonté de faire tourner l'économie malgré le développement du virus, l'incompétence et la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par des gens au pouvoir se révélant incapables de protéger la population, cette notion étant aux antipodes de leurs habitudes et de leur mandat. Ce que ça révèle aussi en ce siècle du réchauffement, c'est ce que le capitalisme mondial fait subir à l'humanité. C'est ce lien du long terme écologique et du court terme boursier, miroir d'un autre court terme, celui de la mort par asphyxie dans des urgences débordées où l'on allonge les malades au sol. Alors qu'il y a un an à peine, la police matraquait les soignants grévistes au sol aussi. Il ne faudra plus seulement construire des logements traversants avec des fenêtres côté ouest et côté est, de la pelouse à la place des dalles de béton, de l'ombre, de l'eau, non. Seulement penser au confinement possible, pollution, virus, guerre, qui sait, mais aussi penser à toute nouvelle vie d'après. Après le capitalisme, après l'économie, après la monnaie, après la dette. Après ce qu'on connaît, et pour quelque chose que précisément on ne connaît pas. Mes parents avaient un compost dans le jardin, délimité par des briques formant 1,50 m de côté, posé entre un pied de chasselas ficelé à un mur en ciment, un massif de fleurs animé de papillons, un poirier et un potager. L'autosuffisance était la normalité, le supermarché était l'extraordinaire, la modernité. Les poules donnaient des œufs, donc on ne mangeait pas les poules. Le vieux lapin borgne non plus, pas question de le manger. On aurait pu être végétarien. Haricots verts, petits pois, pommes de terre, poireaux, carottes, cassis, fraises, framboises, groseilles, groseilles à maquereau, cerises, poires, pommes, prunes, des noix aussi. fruits de printemps, d'été, puis un stock d'hiver dans la vieille cave humide, mal éclairée, chevelue de toiles d'araignée, escalier glissant. Des confitures, des conserves faites dans la grande marmite bouillonnante dans le garage qui était une ancienne grange. Imaginez ces gestes dans une ville à quelque chose à la fois surréaliste, amusant, mais aussi naturel à la façon de « pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt ?» Je dis ça comme si ça se faisait déjà. On entend de loin des histoires de compost urbain, des nouveaux gestes de tri pour la valorisation des biodéchets. Des affiches blanches et propres, écrites en vert et bleu, parce que sur le bitume, le vocabulaire pousse encore mieux que du chien-dent, et je me demande si ça va marcher, ou si ce ne sont que des mots publicitaires, et s'il y a des chiffres qui éprouvent les mots, et si l'on peut avoir confiance dans des chiffres pour nous dire « ça va aller mieux ». C'est l'urgence du confinement de ce printemps 2020 qui m'y ramène, parce que j'ai lu quelque part 25% de déchets en moins à Paris. Et en banlieue, on s'est mis à sentir l'odeur de la terre et de la marne. Les abeilles étaient dans les buissons de laurier, plus nombreuses que les années précédentes. On entendait toute la journée les oiseaux dans leur registre de fréquence. J'ai même entendu, au cours d'un déplacement bref, dans la limite d'une heure, un jour, dans le rayon maximal d'un kilomètre, autour de mon domicile et lié à l'activité physique de mon individualité confinée, en descendant la côte vers Gournay, l'écho de cette vallée qui donnait à entendre ce que je n'avais jamais entendu ici. Dans le silence creux et le faible bruit du vent agitant les feuilles d'arbres et les piaillements, il y eut cette série caractéristique en cinq temps, paire de tchaks entrecoupés d'un soupir, les essieux d'un train lointain invisible passant sur des éclisses.